Oui, bonjour, ici Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Nous sommes le 1er décembre 2023 et le titre de notre épisode aujourd'hui s'intitule « La cruelle différence de libido ». Alors, c'est le début du chapitre 5 de mon livre intitulé « L'infidélité n'est pas banale ». Un couple me consulte parce qu'il est sur le bord du divorce. Seul avec moi, le mari m'informe qu'il a une maîtresse à l'insu de son épouse par dépit à cause de la faible libido de cette dernière qui ne lui accorde qu'une relation sexuelle par mois depuis le début de leur relation conjugale de 10 ans. La fréquence des relations sexuelles dans un couple est un terrain fertile pour des conflits et des frustrations conjugales majeures. Ce n'est pas par hasard si la détresse suscitée par le manque de relations sexuelles dans le couple est la première raison qui pousse les hommes à l'infidélité. La panne de désir, comme les Québécois disent depuis les émissions télévisées de Jeannette Bertrand en 1989 sur ce sujet, dans son émission intitulée « Parler pour parler », ou plus correctement appelé le manque de libido, ou encore plus scientifiquement l'inhibition du désir sexuel, est l'une des plus grandes tensions dans le lien conjugal. Mais il est plus adéquat de parler de différence d'intensité du désir sexuel entre les deux partenaires d'un couple. Cette différence peut donc amener une détresse considérable qui peut s'exprimer par l'infidélité. Dans ce chapitre, j'aborde plutôt la faible libido, alors que je traiterai du contraire, la libido frénétique, dans le chapitre suivant. La tragédie du désir sexuel masculin. Connaissez-vous cette vieille histoire qu'on raconte aux jeunes mariés? Chaque fois que tu feras l'amour avec ton épouse au cours de ta première année de mariage, tu déposeras une scène dans un vase placé sur la commode de la chambre à coucher. Au bout de l'année, chaque fois que tu feras l'amour, tu enlèveras une scène de ce vase au lieu d'en ajouter. Et alors, on conclut cette histoire par cette suggestion en faisant la prédiction suivante. Tu ne viendras jamais à bout de vider ce vase le reste de ta vie conjugale. J'ai fait ma thèse de doctorat en sexologie au début des années 1980 sur la fréquence des relations sexuelles et je surveille toutes les recherches statistiques sur ce sujet depuis cette époque. Les chiffres démontre toujours la même conclusion, et ce, partout dans le monde, à savoir que les hommes ont une libido beaucoup plus forte que les femmes. Les recherches démontrent clairement qu'en général, les femmes sont moins intéressées à la sexualité sur toutes les mesures possibles du désir sexuel, c'est-à-dire la fréquence des pensées sexuelles, la fréquence du désir d'avoir une relation sexuelle, la fréquence de la masturbation, le nombre de partenaires sexuels, l'utilisation de matériel érotique, la rapidité de l'initiative sexuelle et la dose de communication requise pour passer à l'acte, etc. La recherche d'Hard, dénommé Hard en 1977, illustre ce problème dans la vie de couple. Questionnés sur la satisfaction de leur vie sexuelle en matière de fréquence sur leurs 20 ans de vie conjugale, les couples de cette recherche ont donné le tableau suivant. La fréquence convenait aux épouses, alors que la plupart des maris aurait voulu avoir 50% de plus de relations sexuelles. En analysant l'ensemble des recherches sur le sujet, les auteurs Baumeister et Tiss, en 2001, ont conclu que l'homme moyen, qu'il soit célibataire ou marié, ne fait jamais l'amour autant qu'il le désire, contrairement à la femme. Les auteurs, qui sont des professeurs d'université américaine, ont même intitulé un chapitre de leur livre La tragédie du désir sexuel masculin pour mettre ce problème en lumière. J'ai l'impression qu'en effet, la majorité des hommes souffrent en silence de cette frustration et que les femmes ne se doutent pas de l'intensité de cette souffrance. L'homme frustré par sa conjointe dans ses désirs sexuels peut s'enfoncer dans des tourments intérieurs fort pénibles à l'insu de son entourage. Son désir sexuel endigué comme par un barrage hydraulique peut se transformer en un langage interne agressif et déprimant. Il peut remettre secrètement son lien conjugal en cause et envisager avec désespoir la perte de ses enfants, tout ça pour une raison ridicule, se blâme-t-il. Je n'en peux plus, se plaint-il intérieurement. Ça se voit, elle n'est pas attirée sexuellement par moi. Je me sens utilisé et réduit au simple rôle de pourvoyeur. Elle m'exploite pour ses fins personnelles. Elle ne m'aime pas vraiment. Ma vie est terne et ennuyante. Au fond, j'ai fait un mauvais choix conjugal. J'aurais dû la réaliser bien avant. J'en suis réduit à me masturber pour me soulager. Ça n'est pas normal. Je ne suis pas normal, non. C'est plutôt elle qui est anormale. En tout cas, notre relation est anormale. Et les autres femmes m'attisent de plus en plus. Je devrais me laisser aller avec ma collègue de travail, Marie, qui me fait de beaux sourires. Une aventure avec elle compenserait ma frustration et ce serait entièrement de la faute de ma conjointe Anne, qui est de plus en plus asexuée. Je me sens misérable et ridicule. Les autres hommes sont plus chanceux que moi. Je suis de trop, puisque mes désirs sexuels l'agacent et l'éloignent de moi. C'est comme si j'avais un vice de fabrication avec mes désirs sexuels qui l'achalent. Au lieu de concevoir mes désirs sexuels pour elle comme des compliments à son égard, elle les voit comme des agressions. La situation mène à un cul-de-sac. J'ai faim et je n'ai pas le droit de manger, ni chez moi, ni ailleurs. Elle m'a toujours prévenu de ne pas la tromper, sans quoi elle me quitterait. Elle va pourtant finir par payer cher l'enfer qu'elle me fait vivre. L'instant d'après, cet homme désespéré peut tout oublier si sa conjointe prend l'initiative d'une relation sexuelle et le comble momentanément. Jusqu'à la prochaine crise intérieure suscitée par la soif sexuelle inassouvie. Les conséquences du manque constant de relations sexuelles peuvent être graves dans un couple et il est déprimant pour un individu de voir sa libido se transformer constamment en colère. En effet, un homme en manque de relations sexuelles devient souvent enragé intérieurement s'il se sait condamné à l'abstinence. Son désir sexuel devient alors synonyme de colère, si ce n'est de rage. Avoir du désir sexuel, c'est alors être automatiquement enragé. Il se sent donc coincé dans un cul-de-sac déprimant. Je ne voudrais pas être mal interprété. Les femmes aussi ont de forts désirs sexuels et il m'arrive de plus en plus de recevoir des couples dont c'est la femme qui souffre du manque de désir de la part du conjoint. Mais l'inverse est beaucoup plus fréquent, sans aucun doute. Et souvent, la femme qui manque de désir est tout à fait bien intentionnée. La femme qui manque de désir est tout à fait bien intentionnée, ne se rendant pas compte que son niveau de désir sexuel cause un problème si grave. Autre nouveau titre, moins d'une fois par 2 semaines, c'est anormal. À mon étonnement, c'est-à-dire, il m'arrive encore de recevoir en entrevue des couples qui font l'amour seulement quelques fois par année, tout en s'imaginant qu'après un certain nombre d'années de vie commune, la plupart des gens sont aussi peu actifs sexuellement. Évidemment, ils sont étonnés d'apprendre que les couples de 70 ans en bonne santé font encore l'amour à un rythme hebdomadaire, selon Hélène Kaplan en 1995. Cependant, l'absence de partenaire sexuel est un facteur si important qu'avec l'âge, c'est-à-dire que si on l'ajoute aux autres facteurs, en réalité, seulement 20% des femmes de plus de 60 ans seraient encore actives sexuellement. Chez les hommes, ce serait plutôt 70%. Mais s'il est une sphère où les variations peuvent être énormes, c'est bien la vie sexuelle. D'après Kaplan, en 1995, certains homosexuels ont jusqu'à 10 orgasmes par jour et 1000 partenaires par année. Mais qu'en est-il de l'homme moyen au juste? Dans un de ses célèbres tableaux statistiques, le fameux pionnier américain de la recherche sexologique, Alfred Kinsey, en 1948, lui qui avait collectionné méthodiquement à l'aide d'entrevues individuelles l'histoire sexuelle de 6 300 hommes, révéla que la fréquence des orgasmes masculins était de 0,5 à 1,5 à 1,5 fois par semaine pour 40% des hommes de l'adolescence à 85 ans et de 2 à 3 fois par semaine pour 31% des hommes et de 3,5 à 6,5 fois par semaine pour 21% des hommes et de 7 fois et plus par semaine pour 7% des hommes. Grosso modo, autrement dit, de l'adolescence à 85 ans, les trois quarts des hommes interviewés avaient plusieurs orgasmes par semaine, en incluant autant la masturbation que les relations sexuelles avec des partenaires. Si l'on considère la fréquence sexuelle des couples maintenant, on obtient une courbe légèrement descendante avec l'âge qui peut se résumer ainsi. Une moyenne de trois relations sexuelles par semaine entre 16 et 30 ans, deux relations sexuelles entre 30 et 40 ans et de 1 à 2 relations sexuelles entre 40 et 50 ans, et puis une relation sexuelle par semaine pour les 50 ans et plus. Une autre recherche comparait la fréquence des relations sexuelles entre les Américains et les Français. Les sujets de cette recherche étaient des hommes et des femmes âgés de 18 à 59 ans. 3 432 Américains et 4 500 Français. Comme résultat, on retrouvait dans la classe de une fois par semaine et moins 38% des Français et 58% des Américains. Dans la case des 2 à 3 fois par semaine, 52% des Américains et 50, voyons, 30, excusez là, je vous embarrasse avec ces statistiques-là en plus, c'est pas le temps de commencer à vous compliquer les choses. Alors, Et moins de 38% des Français et 58% des Américains dans la case des 2 à 3 fois par semaine. 52% des Américains dans la case des 2 à 3 fois par semaine. Et 32%. Oh, excusez, là, c'est foutu cette affaire-là. Oubliez ce que j'essaie de vous lire. C'est foutu. Mais finalement, 10% des Français et 8% des Américains faisaient l'amour 4 fois par semaine et plus. Alors, j'espère que ça vous donne quand même une idée, grosso modo. On entend parfois que, de toute façon, peu importe les statistiques, la fréquence des relations sexuelles est l'affaire des individus concernés et qu'un couple peut même être heureux sans aucune relation sexuelle. Je n'y crois pas. Les relations sexuelles font partie de façon inhérente du contrat conjugal. Et le manque d'enthousiasme de ce côté de la part de l'un des deux conjoints, peu importe le sexe, est rarement anodin. À plus forte raison, quand la complète abstinence est imposée par les deux conjoints. Ces situations entraînent nécessairement des répercussions négatives sur le couple. Et si les conjoints s'entendent pour s'abstenir sexuellement, il y a lieu de s'interroger sur la vigueur de leur relation de couple, à moins qu'ils ne soient pas en bonne santé. En tout cas, Chiavi et son groupe de recherche ont établi le critère suivant d'anormalité de la vie sexuelle dans un couple. Ouvrez les guillemets, est anormal une fréquence de relations sexuelles de moins de 1 fois par 2 semaines pour les personnes de 55 ans et moins. Fermez les guillemets. Nouveau sous-titre, la fréquence sexuelle va de pair avec la satisfaction conjugale. S'il est vrai que l'écart entre les hommes et les femmes est si marqué en ce qui concerne l'intensité du désir sexuel, comment font les couples pour s'entendre sans que l'homme soit infidèle? Il ne serait donc pas surprenant que la frustration sexuelle soit justement la raison première de l'infidélité des hommes. C'est exactement ce qu'ont trouvé Glass et Wright en 1992 avec leur recherche sur l'infidélité auprès de 300 Américains des deux sexes. En effet, la raison principale donnée par les hommes pour tromper leur conjointe était purement d'ordre sexuel, tandis que pour les femmes, c'était plutôt l'intimité émotionnelle qui était en cause. Mais si la plupart des hommes ont une libido plus forte que les femmes, pourquoi certains hommes cèdent-ils à leur désir de compensation par l'infidélité alors que, comme on l'a vu dans le chapitre 1, la majorité des hommes ne le font pas? On trouve la réponse à ces questions dans la qualité globale de la relation des couples concernés. Et cette qualité repose elle-même sur la capacité relationnelle de chaque conjoint. C'est la même chose pour l'intensité du désir sexuel. Parmi l'ensemble de nombreuses variables impliquées dans la libido, à savoir les facteurs biologiques et hormonaux, les facteurs éducationnels, culturels, familiaux, situationnels et existentiels, la qualité globale de la relation conjugale compte énormément. En tout cas, de nombreuses recherches établissent clairement un lien entre la fréquence des relations sexuelles et la satisfaction relationnelle du couple. Entre autres, Prager en 1995 et Gossman en 2003 citent plusieurs de ces recherches qui aboutissent généralement à ce genre de constat. Deux points. Les relations sexuelles plus fréquentes et plus satisfaisantes coïncident avec plus d'affection, plus de cohésion et plus d'échanges verbaux intimes entre les conjoints d'un couple. Point. Indépendamment de l'âge des individus, l'association entre l'intimité sexuelle et l'amour est forte, autant pour les hommes que pour les femmes. Autrement dit, Les conjoints qui s'entendent bien font l'amour plus souvent. On peut faire l'hypothèse qu'en plus, ils font des compromis acceptables pour chacun. Sur la question de la fréquence de leur relation sexuelle, tandis que les conjoints déjà frustrés pour d'autres raisons utilisent la différence de leur libido individuel comme raison supplémentaire de nourrir leur frustration globale l'un envers l'autre. La sexualité est un terrain fertile pour y cultiver de l'amertume. Il est vrai que la fréquence sexuelle est plus intense au début d'une relation amoureuse, comme l'exprime bien Hélène Kaplan en 1995, au début d'une relation de couple, le désir sexuel est alimenté par les compliments qui coulent comme du champagne, par l'incertitude du lien futur, par les obstacles, par les résistances, par les désapprobations de l'entourage et par l'incertitude de la réciprocité. Bien sûr que la nouveauté est aussi un élément capital dans l'excitation. Mais par la suite, quand la relation est bien installée, c'est le bien-être affectif ressenti au contact de l'autre qui stimule le désir. C'est ici qu'entre en jeu les défaillances personnelles de chacun des conjoints. Des impasses conjugales peuvent aboutir à un refroidissement de l'ardeur sexuelle. Et ni des apports de testostérone exogène sous forme de médicaments, ni des conseils du genre « apprenez à vous caresser » n'auront alors d'effet sur la libido. Les conjoints devront plutôt prendre conscience de leurs conflits, surtout des conflits évités. Ceux-ci peuvent miner la relation conjugale de façon souterraine et aboutir à des surprises comme une subite infidélité ou une baisse incompatible du désir sexuel. J'avais l'habitude de dire à mes clients, deux points, le désir sexuel passe par le même robinet que la colère. Si on ferme le robinet de la colère dans un couple, on ferme, sans s'en rendre compte, le robinet du désir. Aujourd'hui, je préfère parler d'affirmation de soi. C'est peut-être plus juste. Le manque d'affirmation de soi dans le couple conduit tout droit au ressentiment et ensuite à la distanciation, empruntant toutes sortes de voies comme la baisse de la libido et l'infidélité. Alors, chers auditeurs, c'est ici que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. C'était Psycho Balado avec Yves Dalpé. Et puis, vous pouvez aller sur mon site internet pour en savoir un petit peu plus sur qui je suis. www.dalpecote.com et à la prochaine dans environ 2 semaines. Thank you.